Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Je sais qu'en Europe et en France, vous avez tous entendu parler du problème. Et maintenant, je fais partie de l'histoire.
C'est un témoignage exceptionnel que vous allez entendre ce soir dans l'escale reportage d'un jour dans le monde, celui de Dwayne Johnson, ce jardinier américain qui a gagné son procès contre Monsanto. C'est grâce à nos amis d'Envoyé Spécial sur France 2 qu'on peut vous le faire entendre. L'interview, c'est la leur. Nous sommes en partenariat ce soir et Grégory Philips nous remettra cette bataille en mémoire sous les radars. Et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Algérie, au Danemark, à Ramallah. L'Europe, on l'aime ou on la quitte, mais là, quand on l'aime pas, on a du mal à la quitter. Quentin Dickinson nous donne des nouvelles du Brexit depuis le Parlement de Strasbourg, le monde à l'envers de Jean-Marc Four avec la CPI qui relâche Laurent Gbagbo. Grosse colère contre la Cour, on verra comment c'est justifié s'il faut tirer sur l'ambulance. Mais avant, nous plongeons dans le rapport annuel de Human Rights Watch. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Philippe Dam.
Bonsoir.
Pour Human Rights Watch, vous êtes le directeur plaidoyer sur l'Europe et l'Asie centrale, vos pays de prédilection, et on y reviendra très directement sur notamment la Pologne et la Hongrie. C'est toujours un excellent baromètre que de voir arriver le rapport annuel de Human Rights Watch. Le travail est colossal, la vision d'ensemble sur le monde forcément nous intéresse. C'est pas toujours une vision très optimiste. On va essayer, nous, d'aller y chercher quelque chose d'un peu positif. Ce que vous y voyez, vous, collectivement, c'est que la résistance à l'autocratie commence à s'organiser. Elles sont où les bonnes nouvelles?
Exactement. En fait notre rapport, il couvre en fait plus d'une centaine de pays, donc ça donne évidemment une photo très précise de ce qui se passe. Alors malgré certaines très mauvaises nouvelles, comme on a vu l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir au Brésil, l'arrivée de Salvini en Italie, effectivement.
Très grosse page consacrée au Brésil d'ailleurs dans ce rapport cette année.
Ouais. Ce qu'on voit également, c'est le début d'une réponse à la fois populaire et politique à ce qui se passe par rapport à la montée des conservatismes, populismes dans le monde. Ça a été vrai notamment par l'arrivée sur la scène multilatérale de petits États qui ont tenu tête aux grands. Les Pays-Bas ont mené une action très, très sérieuse contre la situation au Yémen, au Conseil des droits de l'homme à l'ONU. On a vu aussi une réponse sur la situation en Birmanie. Et puis surtout en Europe, plus proche de nous, on a vu la réponse du Parlement européen à la situation, à la grave détérioration à laquelle on est en train d'observer en Hongrie. Une attaque tout azimut contre les cours, contre les médias et contre la société civile.
Alors on va y venir effectivement à la Hongrie dans un instant. Et alors vous en avez cité quelques-unes, mais c'est vrai que, alors on a toujours tendance à regarder ce qui va mal, mais je regarde la Turquie, je regarde la Russie, je regarde les Philippines, je regarde l'Égypte, vous avez cité le Brésil, on regarde Bolsonaro. C'est un peu une histoire de vase communicante, au fond, on a l'impression que quand il y en a un qui perd un peu, ça repart dans un autre pays, mais finalement la tendance reste un peu la même quand même, non?
La tendance reste la même, très clairement, un grand nombre de leaders en Europe et ailleurs parient sur l'idée que exposer très fièrement leur opposition aux droits de l'homme, à leurs valeurs, les renforcera. Il parie que de dire que les droits de l'homme sont un obstacle à leur politique, à leur efficacité, les soutiendra. En fait, les droits de l'homme sont surtout un obstacle à leur maintien au pouvoir. Ceci dit, le meilleur moyen de confronter ces idées, de confronter ces visions, c'est de résister, c'est d'imposer des observations politiques sur les impacts et les résultats de ces approches.
Vous avez parlé des Pays-Bas à l'instant. Vous parliez effectivement notamment des Nations Unies. Est-ce que vous avez le sentiment que, on l'a peut-être vu autour de la Birmanie notamment et des Rohingyas, on a pu le voir aussi autour de l'Arabie Saoudite, finalement autour de Khashoggi, est-ce que la pression est différente aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut être plus forte, y compris venant des Nations Unies, donc plus efficace ou pas?
La pression doit être plus forte. La diplomatie, c'est avant tout la rhétorique. Et de confronter le narratif de leaders qui considèrent que les droits des uns peuvent se faire aux dépens des droits des autres doit faire partie du courage qui répond à cette situation. On espère qu'effectivement, c'est la réponse que vont adopter les leaders européens dans les années qui viennent, malgré le blues du Brexit et puis malgré des élections européennes qui s'avèrent compliquées.
Parce que, si je regarde par exemple l'Arabie Saoudite, la levée de boucliers, on s'en souvient tous et on l'a vu, elle vient de chacun des pays, mais au fond, Qui a pris de vraies décisions concernant les armes, notamment, c'est l'Allemagne d'Angela Merkel, et finalement pas grand-chose d'autre autour.
Exactement, c'est une décision quand même qui vaut son pesant d'importance. Une action similaire n'a pas encore été prise en France, n'a pas encore été prise par d'autres pays, et les sanctions politiques, les questions d'armement, les les réponses multilatérales font partie de l'arsenal et des outils qui doivent être utilisés, et la France elle-même doit délivrer en cette matière.
Alors je voudrais qu'on aille faire un petit tour dans deux pays différents qui nous intéressent, nous, très concrètement, parce qu'ils sont si proches de nous, que sont la Pologne et la Hongrie, parce qu'on voit des choses s'y passer aujourd'hui. Et vous allez me dire si on y met peut-être trop d'interprétations, d'ailleurs, parfois, parce que peut-être qu'on a envie de voir ces pays revenir un petit peu dans un camp plus démocratique. Mais il y a deux épisodes qui sont extrêmement importants. Il y a d'abord l'assassinat à Gdansk du maire de Gdansk, Pavel Adamovic, qui a provoqué d'énormes soulèvements de foule, qui a provoqué un vrai électrochoc, peut-être, dans ce pays, qui parle d'autre chose que la simple mort d'Adamovic. On va écouter Marie. C'est une proche de cet ancien maire, donc désormais de Gdansk, qui a été croisée par Ludovic Piétenu, pardon, dans les rues de Gdansk. On va l'écouter et on se retrouve juste après.
Donc, Marie, comment vous pensez que la tristesse des gens, des habitants de Gdansk, va se traduire? Comment va-t-elle se traduire?
Kolejny smutek, niestety.
Encore en tristesse.
Toujours de la tristesse, toujours. Il ne peut pas se passer quelque chose d'autre.
Przez parę miesięcy, chyba że wyrośnie jakiś nowy lider, prezydent miasta albo inny lider opozycyjnej partii.
Pendant quelques mois, à moins que un nouveau leader apparaisse ou un nouveau leader d'un des partis de l'opposition.
C'est plus qu'un maire de la ville qui est mort, c'est un leader de l'opposition au niveau national.
Tak uważam. Zginął lider opozycji na poziomie krajowym, choć lokalny. On od paru ładnych lat głosił hasła, które są mi bliskie: demokracji, wolności i solidarności. Otwarcie.
Oui, je suis d'accord. Donc, c'est un leader de l'opposition au niveau national qui a été tué. Parce que moi, je suivais ses idées, j'étais de son avis. Et parce que il prenait depuis toujours la solidarité, la liberté et la démocratie.
Ce que vous me dites, Marie, ça change un tout petit peu la perception que j'avais de la situation. Je pensais que le PiS était en danger politiquement après cet assassinat.
Myślę, że nie może spać spokojnie, natomiast zrobi wszystko, żeby udało mu się wygrać następne wybory, i zrobi każde świństwo, żeby to wygrać.
Oui, je pense que non, ils sont pas tranquilles, mais ils vont faire maintenant absolument tout, mais absolument tout pour gagner les prochaines élections. En automne, il y a des élections parlementaires.
C'est une année importante, quoi. C'est une année cruciale, peut-être. Et la mort d'Adamovic va peut-être permettre quelque chose, un déclic.
Nic wielkiego się nie stanie, ale na pewno wygramy te następne wybory.
Donc, je pense pas qu'il y ait des événements extraordinaires, non. Mais je vous assure, on va gagner les prochaines élections.
Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous semblez si sûr?
Ponieważ wygraliśmy wybory samorządowe jako sprzeciw przeciwko PiS-owi.
Parce que nous avons gagné les élections locales, municipales, justement, et tout ça, entre autres, pour contrarier PiS.
Ça se passait donc aux obsèques à Gdansk de Pavel Adamovic. Philippe Dame pour Human Rights Watch, est-ce qu'elle a raison, cette jeune femme? Est-ce que le PiS, donc conservateur, extrêmement rude, y compris à certains égards avec la presse et les droits de l'homme, qui est tenu pour responsable aujourd'hui, est-ce qu'il est entaché par cet épisode de violence politique? Au fond, c'est comme ça que c'est interprété par les Polonais, ou pas?
Il y a une responsabilité des leaders politiques pour maintenir un climat qui permet le débat. Et on a vu que l'approche de certains de ces leaders, et ça inclut le PiS, ça inclut Kaczynski, ça inclut Orban en Hongrie, vise à créer un clivage énorme entre les différentes franges de la population, ce qui peut mener à ce type de violence, malheureusement.
On l'a vu également en
Angleterre lors du Brexit avec l'assassinat d'une députée libérale, et on l'a vu dans les pays où des journalistes récemment ont été assassinés en Europe.
On a pu lire que en Pologne notamment, il y avait une espèce de prise de conscience en fait de comment, jusqu'à quel point le climat politique qui est très rude avait pu entraîner l'assassinat du maire de Gdansk, et que peut-être ça pouvait changer la donne. Est-ce que ça change la donne?
Il faut l'espérer. Il faut que la population polonaise, qui s'est déjà soulevée contre les réformes du judiciaire, qui a déjà manifesté, remette en place les leaders du PIS et les leaders du pays pour que un climat plus propice au débat reprenne place. Et ce qu'on a vu en Pologne, c'est véritablement une série d'attaques attaque contre l'ensemble des institutions qui protègent la démocratie, qui protègent ces droits humains et cet état de droit, les cours, les médias, les associations et le système d'alternance démocratique parlementaire.
Ce qui est toujours intéressant à observer dans ces pays-là, c'est que c'est sur une espèce d'éruption de colère que ces gens ont été élus, en général autour de sujets qui touchent aux migrants. Est-ce que les cycles politiques, au fond, sont devenus de plus en plus courts? Et c'est aussi la raison pour laquelle la rue finit par sortir à un moment. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vous avez le sentiment que ce genre d'élections, celle du PiS, celle de Orban en Hongrie aujourd'hui, peuvent être des cycles beaucoup plus courts, finalement?
Plus que cette latence de cycle qui pourrait s'opérer sans qu'on arrive à ces climats, à ces clivages et à ces violences, c'est les mots qui sont utilisés par des leaders. Quand on entend Orban comparer des migrants à des insectes, quand on l'entend rejeter toute opposition ou tout journaliste comme étant des mercenaires de George Soros sans aucune évidence, c'est ce genre de climat qui mène à potentiellement cette violence qui devient acceptable, y compris par les leaders.
Sauf que c'est pas là-dessus que Orban, pour l'instant, est un peu fragilisé. C'est pas sur ce qu'il dit, ça n'a rien à voir, c'est sur des choses qui sont très concrètes, la fameuse loi des 400 heures, en gros 400 heures supplémentaires pour chacun, qui seront payables uniquement sur 3 ans, ce qui a fait sortir les gens dans la rue. Mais donc, sont sur ces bases sociales-là, Philippe Dame, que les gens manifestent, pas sur le fond de la raison pour laquelle il a été élu, tout de même.
En Pologne, les gens sont sortis dans la rue pour protester contre la
dictature. C'est pour ça que les gens sont très différents d'un côté comme de l'autre.
En Hongrie également, on voit des slogans, on voit des affiches qui appellent à un retour de la démocratie, qui appellent au respect de la diversité, de l'indépendance des médias, publics comme privés. Et vous avez raison, l'élément déclencheur des manifestations en Hongrie, ça a été cette loi sur les esclaves qui a réuni l'ensemble de la population, les ouvriers, les autres professionnels. Mais l'appel à un retour de la démocratie, à une gouvernance responsable, fait aussi partie des slogans et des demandes de la population qui a pris la rue.
Et bonsoir Louise Baudet.
You wished it, Fabienne. Et bonsoir
vous,
à tous.
Vous qui êtes en Hongrie pour nous en ce moment, justement, je voudrais que vous nous expliquiez cette dualité. En fait, à la fois, on sort dans la rue pour une histoire économique, mais si on y reste, c'est peut-être aussi pour d'autres raisons. Ça commence en tout cas, effectivement, par une fronde sociale d'abord, Louise.
Oui, effectivement, ça a démarré il y a un mois avec cette loi esclavagiste dénoncée par les syndicats. Les syndicats qui n'ont jamais été aussi actifs depuis 20 ans. Il faut dire qu'ici, on fait déjà beaucoup d'heures sup pour des salaires qui restent très bas. Le salaire moyen est de 530 euros par mois, alors que la référence ici, le Graal, c'est le niveau de vie des voisins autrichiens. Pour s'en rapprocher, beaucoup cumulent deux ou trois jobs. Par ailleurs, près de 8% de la population active a déjà quitté la Hongrie pour trouver ailleurs en Europe de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Et cette loi, elle risque d'amplifier encore cette fuite des salariés, notamment des salariés les plus qualifiés et des plus jeunes. Le gouvernement, lui, minimise ce problème et affirme que la loi va profiter aux PME. Toutefois, deux ministres ont récemment décrit un tout autre dessous des cartes, Fabienne. Ce serait l'industrie automobile allemande, BMW, Mercedes et leurs usines de Debrecen et Kecskemét, qui auraient fait pression. Une mainmise des multinationales étrangères sur la main-d'œuvre à bas coût hongroise, précisément ce que Viktor Orban avait promis de combattre.
Mais justement, qu'est-ce qui se passe alors dans les jours qui viennent? Grève, manifestation, il va se passer quoi?
Oui, menace de grève coordonnée, puis menace de manifestation, surtout pas seulement à Budapest, ce sera samedi. Pour être visible, ce sera aussi en région pour manifester sous le nez des Hongrois, à défaut d'apparaître dans les médias. Parce que, de fait, la quasi-totalité des radios, des télés, des journaux publics comme privés se contente ici de relayer la propagande du gouvernement et du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Et ça fonctionne, Fabienne. La figure du migrant illégal, vous en parliez, la peur qu'engendre cette image, eh bien, elle assure au régime une clientèle électorale fidèle. Orban a été confortablement réélu pour un troisième mandat en avril dernier. Petit à petit, les libertés publiques sont rognées. On en parlait. Un jeune étudiant qui est connu ici pour avoir été arrêté de façon musclée avant Noël me racontait tout à l'heure que le peuple hongrois, il est comme une grenouille. Si vous mettez la grenouille dans une casserole et que vous faites bouillir l'eau, d'un coup, elle saute. Mais si vous augmentez la température tout doucement, la grenouille, eh bien, elle se laisse faire. Et c'est précisément pour ne pas finir ébouillantée que l'opposition politique participe au mouvement et surtout qu'elle tente de s'unir. Ainsi, le Parti socialiste hongrois est désormais prêt à s'allier avec, tenez-vous bien, le Jobbik. Le Jobbik, c'est la droite extrême, hein, ultra-nationaliste, ultra-réactionnaire, mais doublée encore sur sa droite. Et oui, c'est possible par Viktor Orban. Un moindre mal finalement pour les socialistes du MSP, comparé au régime illibéral d'Orban.
En se racontant, merci beaucoup Louise Baudet, de voir comment ces manifestations évoluent. Philippe Dame, c'est vrai que ça éclos sur autre chose, mais la base d'Orban est quand même extrêmement solide encore dans un pays comme la Hongrie. Au-delà de ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui, non?
Oui, mais le respect des normes d'état de droit, des droits de l'homme, doit dans le consensus démocratique qui a façonné l'Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'impose à l'ensemble des dirigeants, que ce soit Orban, que ce soit les socialistes ou que ce soit les libéraux.
On est d'accord, mais là-dessus on est forcément d'accord, mais encore une fois, la base est solide. Est-ce que ça dit ce qu'on voit là, ce qu'on entend là, y compris l'opposition qui essaie de se structurer? Est-ce que ça dit une possibilité de changement de régime ou pas du tout?
C'est pas à nous de commenter sur ce qui va se passer. D'ailleurs, les élections sont maintenant dans 4 ans. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que l'opposition se réveille et commence à se rendre compte que les coups de rabot à la justice, les coups de rabot aux médias, les coups de rabot à la société civile ont rendu le débat public inodore. Et que l'opposition, jusqu'à présent, a été incapable de contester finalement la propagande qui visait à mettre l'opposition sous le coup de Soros, à dénoncer une immigration invasive, alors que 2 demandeurs d'asile sont autorisés à déposer une demande d'asile par jour en Hongrie depuis de nombreux mois, depuis un an et demi. Voilà, ce sont ces excuses qui sont rappelées chaque jour, à chaque nouvelle, par les ministres, par les médias aux Hongrois. Eh bien, il est difficile de les combattre lorsque on n'a pas accès à une information indépendante et informative.
Ce qui se passe en ce moment, ce sera la dernière question, en Hongrie, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Serbie, d'une manière un peu proche, est-ce que vous diriez signe fort ou signe faible, en gros?
Ce sont des signes forts. C'est important de voir des populations se soulever contre les réformes des juges, se soulever contre les réformes qui affectent les médias, qui affectent la société civile. Ce sont des valeurs qui sont importantes, qui structurent nos sociétés, mais qui font rarement l'objet d'un outrage public massif. Et c'est important de voir que dans ces 3 pays, avec une histoire, une origine différente, ça fait partie des revendications des personnes qui ont pris la rue, effectivement.
Allez, le rapport de Human Rights Watch, en tout cas, il est disponible. Il est extrêmement dense, comme tous les ans, et c'est ça qui est passionnant à chaque fois. Merci beaucoup, Philippe Dame, direct avec nous, dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde avec le témoignage du jardinier californien qui a fait plier Monsanto. C'est un envoyé spécial qu'on le doit, qui consacre toute sa soirée au glyphosate avec des reportages qui font vraiment réfléchir. On vous fera écouter un extrait de Dwayne Johnson en avant-première dans un instant. Sous les radars, avec du cinéma en Afrique, du réchauffement climatique et des journalistes au Danemark et puis du harcèlement de rue à Ramallah. Quentin Dickinson nous raconte l'Europe et le Brexit depuis Strasbourg. Et puis le monde à l'envers, Jean-Marc Faure. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Avec la CPI et Laurent Gbagbo. Jean-Marc, c'est vraiment un scandale. Ou pas, cette histoire?
Après cet acquittement, tout le monde tire sur la Cour pénale internationale. Je vais la défendre.
Allez, on reste en Afrique en tout cas tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Cameroun. Voici Blik Bassi, Woni.
Sorry, nigel ni beyo. Lo yes, be well ni kere wongi. Onge ba be well ni munu wongi. Lo yes, si ho. Inyonyo ni nyo. Lo yes, si ho. Iho ni mao. Long yes we neng eli kere wongi Papire din chomo ki kipi tong bimo Inge mwen mo ki bi perne ni munu wongi Inyo baby well ni besgi wongi Hata ngonge mle long Inge ni yo ki gi wong Mumye abi well ni besgi wongi Bana din kirne ni kere wongi Ilong yesi ho Inyonyo ni nyo Ilong yesi ho Iho ni mao Ambombo kala ni me Ilong yesi ho Iho ni wongi
C'est pas le Eric Bassi sur France Inter. La chanson s'appelle Oni.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Les radars et Amélie Perrier. Amélie, on commence avec l'angoisse d'une profession en Algérie.
Le secteur du cinéma et de la télé dénonce dans une tribune l'anxiété causée par les obstacles à leur métier. Alors le cinéma algérien, c'est par exemple ce film « À mon âge, je me cache encore pour fumer » de Rayana Obermeyer. Outre les difficultés pour filmer les scènes de nu dans le hammam ici, finalement tourné en Grèce d'ailleurs, le secteur rencontre de grosses difficultés financières. Le cinéma algérien n'a ni syndicat ni association. Au cours d'une production difficile, par exemple, de se faire payer, les dettes ne sont pas honorées. Et cela prend un tour dramatique. Cette lettre, signée par une centaine d'acteurs, de réalisateurs, de techniciens, est publiée après l'immolation par le feu d'un producteur. Il y a 10 jours, Youssef Goussem a tenté de mettre fin à ses jours dans le hall de Jair TV. Il a survécu, mais il est très gravement brûlé. La chaîne privée Jair TV a diffusé l'un de ses feuilletons en 2017. Depuis, il n'arrive pas à se faire payer. Le patron de Jair TV, Ali Haddad, par ailleurs chef du patronat algérien, proche du pouvoir, a regretté pour sa part un différend commercial. Pour ces professionnels du cinéma et de la télé, c'est bien plus que ça.
Les médias, pardon, qui donnent l'exemple au Danemark.
Oui, les journalistes de Politiken, très concernés par le réchauffement climatique.
Mange af os danskere går rundt med en forestilling om.
Alors comme par exemple dans cette vidéo par l'un des journalistes de Politiken à propos des économies de CO2 les plus importantes, les plus faciles, les plus surprenantes que chacun peut faire. Mais à Politiken, on ne fait pas que donner des conseils. Le rédacteur en chef du quotidien, Christian Jensen, vient de détailler dans un article tous les engagements de son journal pour réduire les émissions polluantes, à commencer par la suppression des vols intérieurs pour les journalistes. Les photographes seront équipés en voitures électriques. Et pour chaque voyage à l'étranger, eh bien Politiken compensera l'empreinte carbone. En fait, pendant la dernière COP24 en Pologne, en décembre dernier, le journal a augmenté sa couverture des questions climatiques. Les lecteurs ont apprécié, mais aussi critiqué l'hypocrisie des journalistes qui n'arrêtent pas de prendre l'avion pour leurs reportages. Hypocrisie aussi des pages voyages, toujours des séjours à l'autre bout du monde. Le rédacteur en chef là-dessus a reconnu que l'équilibre financier de la publication dépendait des revenus publicitaires, des voyagistes, des compagnies aériennes notamment. Mais à l'avenir, il promet de donner la priorité aux pays nordiques et puis le cahier voyage du week-end, lui, il est supprimé.
Et vous, vous imprimez vos feuilles au lieu de lire sur votre ordinateur,
oui,
Amélie
alors quand
Perrier.
On aura un logiciel stable, peut-être que j'arrêterai de décimer la Macédonie.
Ah, mais c'est faux. Ah, mais c'est mal. On termine en Palestine. Allez, à Ramallah, avec un peu de shopping, tiens.
Oui, une veste en jean ou un t-shirt dessus sont imprimés ces mots « Not your Habibti ». Mélange d'anglais et d'arabe, « Je ne suis pas ta chérie ». C'est une ligne de vêtements signée Yasmine Mjali. La jeune femme entend ainsi dénoncer le harcèlement de rue subi par beaucoup de Palestiniennes.
It's not like the t-shirt's gonna stop harassment. That's not.
Alors là, elle dit, c'est pas un t-shirt qui va stopper le harcèlement. Elle le reconnaît à l'AFP. C'est pas possible. C'est pas le but de toute façon. Mais c'est un moyen de rappeler que vous appartenez à quelque chose de plus grand qui est en train de redonner du pouvoir aux femmes. Un moyen de provoquer la discussion, de remettre en question toutes ces structures dont nous sommes victimes. Voilà. La styliste a grandi aux États-Unis, élevée par des parents palestiniens. Aujourd'hui, à 22 ans, elle possède sa boutique à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Elle a créé sa marque, Baby Fist, et Yasmine reverse 10% de ses ventes à une association locale qui aide les femmes, et puis à des missions pour parler par exemple des règles des jeunes filles dans les écoles, sujet hautement tabou là-bas aussi. Alors, ça plaît pas à tout le monde, aux conservateurs islamistes évidemment, mais aussi à d'autres qui lui reprochent de se tromper de combat. Seule la lutte contre l'occupation israélienne mériterait d'être défendue selon eux. Mais pour elle, les deux se rejoignent. L'occupation prive les hommes de tout sens de contrôle, de leur sentiment de masculinité. Et par ricochet, ils asservissent encore davantage les femmes, CQFD.
Allez, merci beaucoup Amélie Perrier, tous les jours sous les radars, dans Un jour dans le monde.
France Inter,
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est un témoignage exceptionnel que vous allez entendre. Vous allez entendre un extrait ce soir, en fait, grâce à nos amis d'Envoyé Spécial avec lesquels nous sommes ce soir en partenariat. Ils consacrent toute la soirée au glyphosate sur France 2. Le glyphosate dont on sait les dangers. Le glyphosate dont certains continuent à l'utiliser, évidemment. Ceux qui en ont été victimes également. Et c'est le cas de Dwayne Johnson. En tout cas, c'est ce qu'a dit la justice. Vous connaissez son histoire. Elle a été racontée partout. Dwayne Johnson était jardinier en Californie sur les terrains scolaires de Benicia. C'est une petite ville au nord-ouest de San Francisco. Il est en train de mourir d'un cancer qui lui mange la peau. Monsanto a été reconnu responsable de ce cancer lors d'un premier procès. Vous savez qu'un appel est toujours en cours. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne.
Depuis les États-Unis, Grégory, vous allez nous remettre un peu de contexte en fait dans l'histoire de Dwayne Johnson, nous dire où il en est aujourd'hui, nous dire ce qui s'est passé exactement. Avant cela, je voudrais qu'on écoute son témoignage. C'est un extrait donc de l'émission Envoyé spécial ce soir sur France 2.
Je sais qu'en Europe et en France, vous avez tous entendu parler du problème. Et maintenant, je fais partie de l'histoire. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler. Parce que chez vous, vous connaissez l'enjeu. Avec un peu de chance, mon histoire avec le glyphosate pourra servir de leçon, éviter à des enfants d'être en contact avec ce truc.
C'est douloureux?
Ça, c'est supportable. Mais ça, ça finira par me tuer. C'est comme une brûlure au deuxième ou au troisième degré. Et je perds ma peau aussi. À l'époque, j'avais toujours une partie du visage qui n'était pas protégée ici. J'avais des lunettes, un masque, mais mes joues étaient à l'air libre. Donc, quand je vaporisais, dès qu'il y avait du vent, j'en prenais plein le visage. C'est pour ça qu'on passait notre temps à se rincer, parce qu'on savait qu'on était exposé. Si quelqu'un m'avait dit qu'il y avait le moindre risque pour moi ou les enfants de l'école, bien sûr que j'aurais tout de suite arrêté de vaporiser ce truc.
Votre motivation n'est pas que l'argent, j'imagine.
C'est tout sauf l'argent. Mon but, c'est d'établir les faits. Mais l'argent ne vaut rien pour moi parce que je suis en train de mourir. Je préférerais avoir mon salaire, une belle peau, faire du skate, de la moto, partir en vacances avec ma famille. Mes enfants et ma femme, eux, ont besoin d'argent, car leur vie est devant eux. Mais moi, c'est fini. Je veux juste vivre un peu avant de mourir. Cet argent ne suffira jamais.
Voilà l'intégralité de ce témoignage, évidemment, écouté ce soir dans Envoyé spécial. Grégory, dites-nous d'abord comment il va, Dwayne Johnson, désormais.
Écoutez, il est très fatigué, évidemment, on le voit dans le document d'Envoyé spécial, il a des brûlures à peu près sur tout le corps. Au moment du procès l'été dernier, ses médecins disaient que Dwayne Johnson, 46 ans, n'avait plus que 2 années à vivre, donc c'est un homme évidemment très affaibli, mais courageux, combatif, et pour l'instant il vit toujours dans la baie de San Francisco.
Et alors son affaire, il l'a un petit peu évoqué, est très loin d'être terminée.
Bah oui, parce que vous l'avez dit, Monsanto a fait appel de cette condamnation. Et puis, vous savez, on avait beaucoup parlé de ces 289 millions de dollars auxquels Monsanto avait été condamné. Mais finalement, début novembre, c'était en fin d'année dernière, les dommages et intérêts ont été revus par la justice américaine et réduits à 78 millions de dollars à la demande de la firme. Et Johnson avait accepté cette réduction des dommages et intérêts parce qu'à ce moment-là, il voulait éviter un nouveau procès.
Mais ça veut dire qu'il a touché de l'argent ou pas, Dwayne Johnson, pour l'instant?
Non. Non, il a rien touché pour l'instant. Tout le monde pense que je suis riche, dit souvent le jardinier. Je pense notamment à une interview qu'il a accordée à Time Magazine en fin d'année dernière, mais c'est pas le cas. En fait, Dwayne Johnson ne sait pas s'il vivra assez longtemps pour toucher cet argent, mais il espère, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, que ses dommages et intérêts mettront ses 3 enfants à l'abri quand il ne sera plus là.
Et on entend l'état d'esprit aussi, on sent une personne combative. Il a pas baissé les bras de ce combat-là, Dwayne Johnson. Son dernier combat, évidemment, mais il n'a pas baissé les bras, visiblement.
Oui, et dans Time Magazine d'ailleurs, il expliquait que ce qui le motive, c'est de connaître la vérité pour lui, mais surtout pour les autres. C'est ça qui le guide aujourd'hui. Puis c'est vrai que Dwayne Johnson est un peu devenu un symbole. Il est celui qui a réussi à faire condamner cette multinationale. Alors, on l'invite aujourd'hui à donner des conférences aux États-Unis, mais en général, il refuse parce que son état de santé est très fragile. Et puis parce qu'on est en Amérique, Fabienne, on lui a même proposé d'acheter les droits sur son histoire, sur sa vie pour faire un film, et il n'a pas donné suite pour l'instant.
C'est intéressant ce que vous dites, Grégory, parce que il parle à envoyé spécial, c'est ce qu'il dit au début, parce que il dit la France s'intéresse de très près à ces affaires, et notamment au glyphosate et à ses effets. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, aux États-Unis, son histoire n'a pas eu une énorme place, n'a pas eu en tout cas proportionnellement la place qu'elle a pu avoir chez nous?
Alors, si on a vu que des avocats américains, évidemment, étaient très engagés dans ce combat et ont soutenu Johnson, mais c'est vrai que dans les médias, peut-être que l'attention était un peu moins forte qu'en France, que la condamnation de Monsanto a été peut-être un peu moins relayée par les médias américains. Mais c'est vrai que les États-Unis sont peut-être un peu moins sensibilisés, on va dire, à ces questions de santé publique ou environnementale.
Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Dwayne Johnson l'a travaillé autour du décolle. C'est d'ailleurs ça qui rend le cas très emblématique. C'est là-dessus qu'il utilisait ce désherbant. Mais il faut rappeler aussi, parce que c'est ce qui touche aussi nous, nos histoires de glyphosate, et dont on reparlera d'ailleurs ce soir. Une exploitation agricole céréalière aux États-Unis, c'est largement plus important que ça peut l'être chez nous. Oui. Les lobbies, ils sont plus importants. Les lobbies pesticides, les lobbies OGM aussi. On a l'impression d'être dans un tout autre monde, en fait, si on les compare par rapport à nous, au fond.
Oui, vous savez, Fabienne, on considère qu'environ 80% des aliments qu'on consomme ici, 80% des aliments consommés par les Américains contiennent des OGM, et ça fait 20 ans que ça dure. On est effectivement sur une agriculture intensive, et les champs de soja, de maïs, de colza sont quasiment tous à 100% avec des organismes génétiquement modifiés. Il n'y a pas d'obligation de signalement sur les étiquettes d'OGM. Pareil pour le recours aux pesticides, c'est très très courant dans l'agriculture, mais aussi dans la vie quotidienne. Vous rappeliez que Dwayne Johnson, dans sa petite ville de Californie, déversait du Ranger Pro dans les cours d'école ou à proximité. On le voit aussi dans les jardins ici à Washington, où vous avez des panneaux où on vous indique qu'il y a des pesticides qui viennent d'être déversés, qu'il vaut mieux éviter que les enfants se baladent dans ce jardin-là. Donc c'est vraiment aussi dans le quotidien des Américains. Alors c'est vrai qu'il y a un peu une prise de conscience qui commence à se faire, mais c'est surtout dans les grandes villes, à New York ou en Californie, où les consommateurs cherchent du bio maintenant. Évidemment, c'est très cher. On le voit tous les jours quand on fait nos courses, mais le fait que évidemment l'agriculture américaine soit extrêmement intensive fait qu'il faudra sans doute des années pour changer les mentalités ou cette perception, si jamais elle doit changer un jour.
Merci beaucoup Grégory Phillips avec nous en direct de Washington. On va reparler de tout ça tout à l'heure. Je vous le disais tout à l'heure dans le téléphone sonne. Vous pourrez entendre ce soir encore une fois le témoignage de Dwayne Johnson en longueur dans Envoyé spécial. On verra où nous en sommes, nous, de nos interdictions. Justement, puisqu'on se souvient qu'on avait dit quand même que normalement le glyphosate était interdit sur 3 ans. On verra où on en est, on verra si on y travaille, comment et avec quoi. Merci beaucoup encore une fois Grégory Phillips, et la soirée continue bien sûr.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Et comme tous les jeudis, l'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'Europe telle qu'on l'aime ou qu'on la quitte, voilà une chronique qui n'a jamais mieux porté son nom. C'est bien le problème de nos voisins british en ce moment. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Allez, vous êtes en direct de Strasbourg, Quentin. On va revenir évidemment sur cette grande affaire de Brexit. Les eurodéputés à Strasbourg ont pu suivre, vous nous l'avez d'ailleurs raconté, en grand écran, en temps réel, le fameux vote fatal à la Chambre des communes. On attend maintenant de savoir ce qui va se passer derrière, ce qui va se passer aussi pour Theresa May et quel vote, comment le vote qui suit prendra effet, si je puis dire. Du côté des eurodéputés, du côté des Européens, Quentin, qu'est-ce qui lui reste à proposer à cette Theresa May alors ?
Eh bien, l'objectif unique de Theresa May, c'est de faire adopter le texte de l'accord passé par elle avec les 27, celui-là même qui a été rejeté mardi. Il lui faut convaincre les 230 députés de tous bords qui s'y sont opposés ce soir-là de le soutenir ou à tout le moins de s'abstenir. Vu d'ici, eh bien, ses moyens sont limités, si l'on exclut à une si grande échelle des menaces de désinvestiture ou des promesses d'anoblissement, Madame May ne peut qu'à nouveau se livrer à l'exégèse du texte et à la description des malheurs qui s'abattraient sur les îles britanniques en cas de sortie sans accord le 29 mars prochain. Et l'on a bien vu le peu d'efficacité de cette méthode.
Alors Quentin, dans la presse britannique et dans la nôtre aussi d'ailleurs, on évoque d'autres pistes, un nouveau référendum, des législatives anticipées.
Eh bien, des élections législatives, il reste en effet tout juste assez de temps d'ici au 29 mars pour les organiser. Le Parti conservateur, qui risque d'y perdre plus qu'une touffe de plumes, s'y montre aussi défavorable que le Parti travailliste en serait ravi. Mais un éventuel changement de parti au pouvoir ne nous rapprocherait en rien d'une solution au casse-tête du Brexit, pas plus du reste qu'un maintien d'un Premier ministre conservateur au 10 Downing Street. Fausse piste donc. S'agissant d'un nouveau référendum, c'est clair, il serait matériellement impossible de l'organiser dans un délai aussi court. D'autre part, on n'éviterait pas le reproche connu « quand le peuple vote mal, on le fait voter à nouveau », reproche auquel les Anglais sont particulièrement sensibles et dont on peut compter sur la presse britannique pour le monter en mayonnaise. Sans compter que tout référendum s'apparente à une partie de roulette russe et que l'on ne peut exclure qu'un second référendum donne le même résultat que le premier. Et de toute manière, ce résultat, dans un sens ou dans l'autre, creuserait encore un peu plus les clivages entre jeunes et vieux, entre nordistes et sudistes, entre suréduqués et sous-éduqués. Fausse piste encore.
Quentin, l'idée d'un report de l'échéance du 29 mars qu'on a aussi beaucoup évoqué, ça résoudrait au moins les contraintes de calendrier, possible ou pas possible ?
Ah non, ce serait le contraire. Tout report provoquerait des difficultés supplémentaires. Bon, c'est vrai, l'article 50 du traité prévoit cette possibilité, mais l'intention, c'est de prolonger de quelques jours, si nécessaire, pour des raisons matérielles de mise au point juridique ou de traduction dans les 23 langues officielles, mais pas pour tenter de trouver un nouvel accord politique d'envergure. Ensuite, 2019, on le sait, est une année électorale européenne. Et si l'on devait prolonger la période de 2 années prévue par le traité, ne fût-ce que d'un mois, l'on arriverait en plein dans la campagne électorale. Or, pendant la période de 2 ans et pendant son éventuelle prolongation, le Royaume-Uni reste un État membre de plein exercice de l'UE et est donc tenu de participer au renouvellement du Parlement européen. Outre le coût de l'opération, le ridicule serait au rendez-vous avec l'élection de 73 eurodéputés britanniques qui ne siégeraient que quelques mois.
Donc, pas de prolongation ?
Si, on pourrait envisager d'allonger la période de transition qui débute le 30 mars, donc après la fin de la période de primaire et qui doit normalement se terminer le 31 décembre 2020. Cette période est conçue pour négocier le traité qui régira les futures relations permanentes entre Londres et l'UE. Et c'est vrai, 21 mois, c'est un peu court pour ce faire. Mais pour qu'il y ait une période de transition, Fabienne, il faut d'abord que la Chambre des communes accepte l'accord. Retour donc à la case départ.
Quentin Dickinson dans les méandres du Brexit pour nous depuis Strasbourg. Merci Quentin.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo vient donc d'être acquitté par la Cour pénale internationale. Il va être mis en liberté incessamment sous peu. Une décision qui a tout d'un nouvel échec de la justice internationale. Mais vous vous dites, attendons, ne tirons pas trop vite sur l'ambulance de la CPI. Et c'est votre Monde à l'envers.
Évidemment, la première idée qui vient à l'esprit, c'est nouveau fiasco pour qualifier cette décision. Voici le document. D'ailleurs, je vous le montre ici en studio. Vous trouverez le lien, bien sûr, sur le site de France Inter. Après donc 7 ans d'instruction. 7 ans et 3 ans de procès, Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Bégoudé sont donc relaxés. Les motifs d'inculpation étaient pourtant très forts. Meurtre, viol, persécution, résultat zéro. Tout ça pour ça. On imagine la colère des familles de victimes. Près de 3000 personnes avaient été tuées il y a 8 ans en Côte d'Ivoire lors des affrontements post-électoraux. Et que dit la Cour pénale internationale? Elle dit, c'est là, page 4 du jugement, je vous lis, le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve. Autrement dit, la Cour ne conteste pas que des massacres ont eu lieu. Elle estime que les preuves de la culpabilité de Gbagbo n'ont pas été apportées. C'est différent. C'est donc un fiasco de l'instruction. Dossier non étayé avec beaucoup de témoignages invalidés. Et oui, c'est un échec de plus. En 16 ans d'existence, la CPI n'a condamné que 3 personnes, essentiellement des sous-fifres. Les précédents dirigeants politiques traduits en procès ont eux aussi été relaxés. Le Congolais Jean-Pierre Bemba, le Kenyan Uhuru Kenyatta. C'est maigre pour cette institution qui a déjà coûté plus d'1 milliard d'euros avec 18 juges payés 15 000 euros par mois. Cette cour emblématique de la justice internationale peut donc donner en effet l'impression de ne servir à rien.
Donc on la ferme la CPI, c'est ça ?
C'est tentant, évidemment. Hein. C'est d'ailleurs la volonté affichée des États-Unis de Trump, par exemple. Ben moi, je vais prendre la défense de la CPI. Revenons sur cette décision de Gbagbo. D'abord, elle est saine. Pas de preuves suffisantes, pas de condamnation, disent les juges. Une justice qui sait acquitter, c'est quand même une justice qui marche. Et en plus, en toute transparence, hein, tous les comptes rendus d'audience sont disponibles pour vous et moi. Ce que révèle cette décision, c'est surtout le besoin de transformation de la CPI, en particulier de son pôle d'enquête. Cette justice internationale, elle manque de moyens d'investigation qui lui soient propres. Elle n'a que très peu d'enquêteurs sur le terrain. Donc du coup, ça l'expose mécaniquement à toutes les manipulations. Par exemple, dans le dossier Gbagbo, l'instruction, un temps, a utilisé une vidéo d'exaction qui en fait provenait du Kenya et pas de Côte d'Ivoire. Ensuite, la CPI est depuis trop longtemps instrumentalisé politiquement. De ce point de vue, d'ailleurs, l'ancien procureur Luis Moreno Ocampo n'était pas un parangon de vertu. C'est lui qui avait initié cette instruction bancale contre Gbagbo. Et en grande partie sous la pression de qui ? De Paris, qui voulait assurer la stabilité de la Côte d'Ivoire au profit du rival de Gbagbo, Alassane Ouattara. Cet acquittement ne démontre donc pas l'inutilité de la CPI, mais plutôt son manque de moyens pour faire justice.
Alors Jean-Marc, l'autre grand reproche qu'on fait à la CPI, c'est d'être quasi raciste, en fait, c'est-à-dire de n'enquêter que sur les pays africains.
C'est vrai, et c'est faux en même temps, je m'explique. C'est vrai parce que 10 des 11 enquêtes officiellement ouvertes par la Cour l'ont été ou le sont contre des dirigeants africains. Mais c'est faux parce que c'est en train de changer. Comme en miroir de ces 11 enquêtes officielles, il y a 10 nouvelles enquêtes préliminaires, plus récemment ouvertes à l'initiative de Fatima Bensouda, la nouvelle procureure depuis 6 ans. Et ces 10 nouveaux dossiers portent tous sur des pays non africains, y compris sur les grandes puissances ou leurs alliés. Enquête sur les pratiques des soldats américains en Afghanistan, des soldats britanniques en Irak. Enquête sur les affrontements en Ukraine, sur la répression des Rohingyas en Birmanie, sur la Colombie, sur la Palestine. Et tout ça ne plaît, vous l'imaginez, ni aux États-Unis, ni à la Russie, ni à la Chine. Et comme par hasard, maintenant que la CPI envisage peut-être enfin de s'attaquer aux agissements des puissants, elle se fait tirer dessus. Fermez-la, elle est inutile! La ficelle est quand même un peu grosse. L'ambulance CPI, donc on se résume, on l'a compris, elle est bourrée de défauts. Mais il faut bien comprendre aussi qui a intérêt à tirer sur cette ambulance.
Le Monde à l'envers, signé Jean-Marc Four. Tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci Jean-Marc et j'en profite, tiens, au passage, pour saluer nos amis de Courrier International avec qui The Economist sort tous les ans Le Monde en 2019, un condensé de ce qu'il faut comprendre et attendre de l'année à venir. C'est vrai que c'est un peu notre bible, nous, à Un jour dans le monde, ce genre d'ouvrage. Donc on est content de vous le signaler et de vous suggérer de l'avoir près de vous. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant le journal de Sébastien Paour.